Vous écoutez
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Je rencontre énormément de personnes qui ont envie d'évoluer dans leur vie, envie d'aller de l'avant, mais qui pour autant me partagent avoir le sentiment d'être comme bloquées dans leur passé.
2005, 2006, 2007, 2008, 2010.
Et c'est un ace. Oh le mec, il est pas longé, il est à genoux. Il est à genoux, Rafael Nadal. Il l'a fait. Incroyable démonstration de puissance, de tout. C'est le plus grand terrien de tous les temps.
C'est ainsi que je rencontre de nombreuses personnes qui, bien qu'elles soient adultes, pensent consciemment ou inconsciemment que leur passé les définit.
Il monte, elle est sur la ligne et il finit là-dessus. Immense champion, il en jette sa raquette, il ne croit pas ses yeux.
C'est fini !
Novak Djokovic, il n'exulte même pas, il défie du regard les spectateurs du Châtelier. Mais le 19e est là.
Ce comportement, cette habitude, souvent inconsciente, les empêche d'aller de l'avant.
Sinner a une belle balle de coup droit, il attaque, c'est gagnant, c'est fini. Novak Djokovic tombe, l'impensable s'est produit à Melbourne.
Et ça sort.
Victoire de Sacha Zverev, c'est une grosse victoire pour l'Allemand.
Sinner qui change, qui va sur le coup droit, qui lâche le coup droit, c'est gagné. Yannick Sinner qui s'allonge sur le dos.
Et oui, on en rêve encore, hein. Sommes-nous nostalgiques? En tout cas, aujourd'hui, c'est le dernier acte de l'Open d'Australie 2025, un acte qui va débuter dans quelques minutes. Donc, Yannick Sinner, numéro 1 mondial, affronte Sacha Zverev, numéro 2 mondial en jeu. Un troisième titre en grand chelem pour l'Italien. Enfin, peut-être un premier titre pour l'Allemand, qui a déjà perdu deux finales, sous nos yeux et dans nos oreilles. Donc, ce qui se fait de mieux, c'est la première fois depuis 6 ans que les deux meilleurs joueurs du monde se retrouvent en finale de l'Open d'Australie. La dernière fois, c'était en 2019. Ah, les souvenirs. C'était Novak Djokovic face à Rafael Nadal. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Sinner Zverev, est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
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 Ça va, Denis Charvel?
On m'a dit qu'il fallait que je le remplace aussi.
Ok, très bien. Pascal Duprat.
Non.
Marion Bartoli.
Oui.
Sarah Pitkovski.
Bien sûr que oui.
Bien sûr que oui. Ah, les tennis women sont là, hein, sont représentées.
Eh ben oui. Déjà, ce débat m'a énervé déjà de base. Quand on lui donne la question, je me disais, mais c'est pas possible.
Mais dans ta présentation, de toute manière, il y a déjà la réponse.
Attends. On va voir ça dans quelques instants. On va débattre. On va retrouver notre envoyé spécial à Melbourne, Eric Salio, qui va commenter cette finale. Bonjour, Eric.
Salut, les grandes gueules.
Salut,
alors Eric,
salut.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui sait comment gagner les finales de Grand Chelem et l'autre qui sait comment les perdre.
Oui, c'est vrai, t'as raison. 100% de réussite pour Sinner, qui a triomphé l'an passé ici même à Melbourne et qui a confirmé sur le ciment new-yorkais l'été dernier. Et 100% d'échec pour Zverev, battu en finale de l'US Open 2020 par Dominic Thiem. Vous savez, c'était la fameuse finale à huis clos sans le moindre spectateur et puis débordé au printemps dernier par Carlos Alcaraz à Roland-Garros. Mais l'Allemand se sent plus costaud depuis justement cet échec porte d'Auteuil.
J'ai engagé Jess Green comme nouveau préparateur physique. L'homme avec qui je travaillais avant était l'un des meilleurs et l'une des meilleures personnes que je connaissais. Malheureusement, il a eu des problèmes de santé. Pendant les 7 années que j'ai déjà passées avec Jess Green, j'avais l'impression d'être l'un des joueurs les plus forts physiquement du circuit. C'est la raison pour laquelle je l'ai engagé, pour être à nouveau au même niveau physique, pour pouvoir rivaliser avec ces gars-là et pour essayer de gagner les gros tournois. Lors de la finale de Roland-Garros contre Carlos, j'étais fatigué et je ne voulais pas que ça se reproduise cette année.
Quand on épluche les rencontres livrées par Yannick Sinner, on se rend compte qu'il n'a jamais remporté une partie qui a dépassé les 4 heures. Darren Cahill, l'un des coachs italiens, consent qu'un marathon aujourd'hui ne l'arrangerait pas.
Alexander's older, right? He's a physical beast.
Sacha est plus âgé, non? Mais je reconnais que c'est une bête physique. Ça fait des années qu'il façonne son corps. Il a un excellent record sur les matchs en 5-7. Mais Yannick s'améliore physiquement. Il mesure 1m93, alors que selon le guide de l'ATP d'il y a 2 ans, il était à 1m88. Il sera encore meilleur au fil des années.
On surveillera donc l'horloge, mais peut-être aussi que Zverev sera inspiré par le succès hier de Madison Keys, qui désespérait de décrocher un chelem. Autre signe du destin, Stan Wawrinka a remporté son premier titre ici à sa 36e tentative. J'invente rien, Zverev prend part à son 36e majeur.
Merci beaucoup Eric Salio, tu restes avec nous pour ce débat évidemment. Sinner Zverev, est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Ça va commencer dans 15 minutes maintenant et vous allez suivre ça en direct sur RMC. Venez participer à notre débat. Marion, je commence avec toi, pourquoi t'es énervé sur cette question?
Mais je suis énervée parce que c'est entre guillemets rabaisser les deux joueurs qui sont en finale en disant ah ouais mais d'accord, mais donc nous s'il n'y a pas Djokovic ou s'il n'y a pas Nadal ou si avant pour les nostalgiques de Roger il n'y a pas Roger, on ne va pas allumer la télé pour la regarder. Le niveau actuel de tennis développé par les Sinner, par les Zverev, par les Alcaraz est juste monumental. Ils vont construire leur palmarès au fur et à mesure, comme déjà l'a commencé à le faire Alcaraz et comme commence à le faire aussi Sinner, même si pour moi la finale de l'Open Australia l'année dernière, Medvedev passe quand même à côté parce que c'est Medvedev qui mène 2-7-0, mais comme il a eu des matchs extrêmement longs pendant tout le tournoi, il craque physiquement et c'est Sinner qui va remporter son premier tournoi du Grand Chelem. Zverev, ça fait depuis 6 ans ou 7 ans qu'il est au plus haut du tennis mondial. Il a déjà remporté 7 Master 1000, 2 ATP Finals, ouais, donc le Masters jamais, de fin d'année, une médaille d'or au JO, 2 finales d'un tournoi du Grand Chelem. En plus, la finale, tout à l'heure, Eric dit qu'il s'est fait écraser en finale d'Orlando Garros. Il est quand même mené 2-7-1 contre Alcaraz. Il a mené dans ses deux finales du Grand Chelem. Il est passé à 2 points près. C'est un immense joueur. Le niveau de jeu va être exceptionnel et ces deux joueurs, bien évidemment, qu'au-delà de tout, ils méritent qu'on se lève et qu'on regarde ce match. C'est une finale d'un niveau tennis extraordinaire. Alors oui, bien sûr qu'on restera nostalgique des trois grands parce qu'ils nous auront bercé de matchs absolument fabuleux au-delà de tout pendant 15 ans. Mais on va passer à autre chose, comme on est passé à autre chose de Sampras et Agassi, comme on est passé à autre chose de Borg et McEnroe. Et ils vont construire, au fur et à mesure leur légende.
Tu
c'est tout.
Mais pour moi, il n'y a pas que de sport. Il n'y a pas que le sport. Il y a aussi les ressentis, la nostalgie.
Mais non, mais bien sûr que non. C'est le niveau de jeu. Il faut respecter le niveau de jeu. Sinon, ça fait vraiment les tennis qui se disent je regarde le tennis que deux fois dans l'année.
C'est le niveau de jeu qui est en cause, là. Évidemment, quand le premier joue contre le deuxième, le niveau de jeu, bien sûr que ça va être exceptionnel. Bien sûr qu'un Sinner qui vient de gagner 20 matchs de suite, c'est un monstre. Bien sûr qu'un Zverev a dit qu'après sa défaite contre Alcaraz à Roland-Garros, il avait travaillé physiquement parce que, justement, il s'était senti épuisé, qu'il n'avait pas fait les choses. Bien sûr qu'on va avoir un beau match de tennis. C'est une évidence. Sauf qu'il y a d'autres choses. Moi, il y a cette nostalgie. C'est pour ça que je dis oui. Parce que, évidemment, tout ce que tu as dit, Marion, je suis d'accord avec toi. Ça va être un match fantastique. Mais il y a d'autres ressorts, comme tu le dis beaucoup mieux que moi, c'est magnifique. Parce que je pense avec nostalgie à ce qui s'est passé. Moi, à chaque fois, je compare, quand on parle de sport, je compare à mon sport. Moi, je verrai jamais d'autres finales plus intéressantes que celle de Michael Jordan. Pourtant, le niveau de jeu maintenant est bien meilleur. À Wembanyama, c'est incroyable. À LeBron James, c'est incroyable. Pourtant, dans mon cœur, dans mon âme, Michael sera toujours devant. La nostalgie, c'est important aussi. Il faut pas l'oublier.
Mais non, parce
Marion,
que tu respectes pas
que le sport.
Mais non, parce que tu respectes pas, non, en fait, les joueurs qui sont actuellement
respect,
sur le terrain.
C'est un ressenti.
On peut pas éternellement se dire ah ben ouais mais la finale de l'Open d'Australie il y en a eu qu'une finalement, c'était Nadal Djokovic en 2012 et les autres on va pas les regarder mais non
pas,
mais je suis désolée c'est pas possible
regarder, que ça serait pas
d'abord parce que c'est irrespectueux
de penser sur ces anciennes finales et j'aurais toujours une petite boule dans le ventre en disant bah c'était cool quand même Djokovic Nadal.
Je reviens Marion évidemment, Pascal tu vas avoir la main, juste vous dire et forcément Marion tu réagis comme une spécialiste aussi de tennis et on pose la question aussi au grand public. Est-ce que ce matin, quand ils allument leur télé, ils ont envie de regarder cette finale? Oui, elle est exceptionnelle. Oui, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Mais est-ce que c'est suffisant, Pascal Duprat?
En fait, ça va être très dur de déboulonner ce que vient de dire Marion. Et je m'en excuse à l'avance, Marion. Mais je respecte beaucoup les sportifs, les grands champions. Et les deux grands champions qui vont s'affronter dès 9h30 ce matin à Melbourne, ça c'est sûr et certain.
Ça sent le coup de rap.
Par contre, je vais te donner trois raisons. Tu me dis, il faudrait passer à autre chose. Tant que Djoko, qui était encore présent, et que j'espérais faire un exploit, c'est-à-dire un 25e grand chelem, tant que Djoko sera encore là, ben, je serai toujours nostalgique des trois grands. Ça, c'est la première des raisons.
Pascal, avant que l'Open d'Australie commence, Fred m'a dit en premier, non mais t'façon, Djoko, il vaut plus rien, il a plus aucune chance, il se rappelle jamais là.
Eh ben,
c'est moi-même qui te disais que la demi, ça serait Zverev, Djokovic,
je l'avais
annoncé
15
jours avant que ton tournoi commence.
On va laisser finir.
Et donc, la deuxième raison, c'est que malgré tout ce que tu dis, et le bien que tu dis de Zverev, tu as raison de le dire, il a déjà 27 ans. Il est quand même temps qu'il se construise un palmarès et qu'il gagne des grands chelems. Je ne voudrais pas faire la comparaison avec les trois grands à cet âge-là. Et puis la troisième raison, vous n'en parlez pas, mais pour moi, même si les quantités qui ont été détectées étaient infinitésimales, il y a quand même le spectre d'un appel de Lama au TAS concernant Sinner qui me dérange un tant soit peu. Donc pour ces trois raisons, il y en a d'autres, eh bien, je me serais pas levé ce matin si j'avais dû, comme c'était prévu, faire ma grasse matinée. Je me serais pas levé pour regarder ce grand match. Voilà, et l'excitation, c'est un ressenti personnel, et moi, ça m'excitait pas de regarder cette finale ce matin, avec tout le respect que je dois à ces deux grands joueurs.
Exactement, c'est du ressenti personnel. Sarah Pitkowski, tu peux répondre à Pascal.
Je comprends que ça soit du ressenti, mais il y a toujours un début à tout à une histoire. Il y a toujours un début à tout à de grands champions qui s'installent. Et je pense que ce duel entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée. Ce sont deux joueurs qui, aujourd'hui, jouent un tennis, et Marion l'a dit, remarquable. Après, on ne va pas rentrer dans les chiffres des uns et des autres, mais ils ont des styles de jeu qui peuvent nous offrir des duels qui peuvent être épiques. Et moi, évidemment spécialiste de tennis. J'ai oublié de couper mon téléphone. Les deux spécialistes, en tant que spécialiste de tennis, j'ai envie de voir ce qui va se passer parce que je connais les forces de l'un, les forces de l'autre, savoir comment ça va se jouer.
C'est pas dans l'histoire, ça.
Non, mais l'histoire, il faut qu'elle exactement, mais il faut l'écrire la première page de l'histoire.
D'accord. Donc c'est moins excitant. C'est excitant à partir du moment où l'histoire a commencé.
Pourquoi elle est excitante? Parce que si tu te plonges juste dans l'histoire de ces deux hommes jusqu'à maintenant, oui, il y a des prémices de quelque chose d'excitant. Pascal l'a dit concernant Yannick Sinner, mais si je veux faire la mauvaise langue, je vais aussi du côté d'Alexander Zverev qui a eu un procès pour violence et il a acheté ce procès et on a mis tout ça sous le tapis. Et donc, ils ont des aspérités, ces deux mecs-là. C'est-à-dire qu'ils vont être adorés, mais ils vont être aussi détestés, ils vont être clivants à un moment ou à un autre. Et aujourd'hui, le sport, ce n'est pas uniquement qu'une performance sportive. On vient parce qu'on veut vérifier quelque chose. On veut voir si ce qu'on a lu dans la presse ou ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux correspond à l'idée qu'on s'en est fait à 10 000 kilomètres en n'étant pas spécialiste d'un sport. Et donc c'est en ça que je trouve ça excitant. Il y a le sport, mais il y a aussi les à côté. Et franchement, je pense que de voir grandir et s'améliorer un sportif au fur et à mesure de sa carrière, moi, ce sont des storytelling qui me bercent.
Parce que tu es une spécialiste de tennis, mais encore une fois, quelqu'un qui est extérieur, pour moi, j'ai besoin d'avoir un storytelling, comme tu viens de le dire. Et pour moi, une première finale, ça m'intéresse un peu moins. Pour moi, j'ai l'impression que Zverev est en dessous de Sinner qui marche sur l'eau actuellement. Donc je me dis, quelle est l'excitation de voir un Sinner gagner encore une fois.
Mais quand tu fais un Djokovic ou tu fais un Federer Nadal sur terre battue, il y en a bien un qui est au-dessus et l'autre qui est en
dessous. L'histoire du train fantôme. C'est l'histoire du train fantôme. Cette nostalgie qui s'installe, parfois elle est difficile à enlever.
Ok, on va aller voir Eric Salut en direct de Melbourne. La finale, c'est dans quelques minutes. Vous allez, et on va poursuivre le débat. Appelez-nous au 32-16, évidemment. Est-ce une finale aussi excitante qu'à la grande époque? Toi qui es avec des spécialistes de tennis, Eric Salut, tout au long de la journée, tu avec des supporters qui viennent voir leur grand champion. Est-ce que cette finale, tu sens le même parfum qu'il y a quelques années?
Je mentirais en disant oui. Effectivement, ça n'a pas le même cachet qu'une finale Nadal-Federer. Mais bon, à ce moment-là, la première finale de Federer à Wimbledon contre Philippe Poussis, on ne la regarde pas, quoi, en 2003. Non, mais c'est ça.
Non, on ne l'a pas regardée.
On ne s'en souvient pas d'ailleurs.
Non, mais il y a une histoire à tout. Moi, je pense que ça... Il y a toujours des émotions à la fin d'une finale. Les émotions de Madison Keys hier, ça, je pense, ça a remué tout le monde parce que c'est une fille qui pensait ne plus jamais gagner un grand chelem et à 29 ans, ça lui est tombé dessus. Et je pense qu'il y a peut-être une similitude. Tout à l'heure, moi, je crois beaucoup en, je vous ai donné des chiffres un peu orientés, c'est vrai. Je pense qu'il va se passer quelque chose avec Zverev parce que, c'est un garçon qui était promis à en gagner, qui a été bloqué, qui a perdu cette finale à l'US Open contre Dominic Thiem.
Et la blessure à Roland.
Donc, je pense qu'il y a une sorte de destin tardif qui va lui tomber dessus. Et c'est pour ça que moi, j'ai envie de voir comment il va gérer le truc. Parce que peut-être que Sinner est plus fort. Peut-être que Sinner va réussir à poser son jeu et que ça va faire trois petits sets. Mais je suis convaincu parce que j'ai vu des signes avant-coureurs chez Sinner en demi-finale, des crampes en milieu de troisième set qui sont pas normales. Je pense que si on a un match à rallonge, à plus de 4 heures, il y en a un qui va péter un câble, qui va craquer.
On part en pub ou je peux répondre?
Tu vas pouvoir répondre dans quelques instants, bon, Marion. Tu connais parfaitement le conducteur de cette émission. On va poursuivre la discussion et se demander aussi, parce que c'est la grande question, et ce Zverev peut battre ses démons. Deux finales de Grand Chelem, pour l'instant rien de grave, deux finales perdues, ça arrive évidemment, surtout deux finales en 5-7, mais deux finales pour Sinner et deux finales gagnées. Est-ce qu'il y a des joueurs de finale? J'aimerais vous poser cette question. Il est 9h26, on se retrouve dans quelques instants pour les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h28 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Restez bien avec nous, on s'en fout pas dans une dizaine de minutes. J'ai des informations à vous donner. J'ai le nul du Paris Saint-Germain hier. On peut parler de hand ou encore de Novak Djokovic qui a répondu à ses détracteurs après sa blessure. Ça, ce sera dans 10 minutes. Justement, le tennis. On poursuit le débat sur cette finale de l'Open d'Australie qui va débuter dans quelques instants entre Yannick Sinner, numéro 1 mondial, et Sacha Zverev, numéro 2 mondial. Marion, juste avant la pub, tu voulais répondre à Eric Salio.
Non, je réponds sur plusieurs points et notamment aux arguments de Pascal. Bon, déjà, Eric a évoqué le match effectivement avec les crampes là sur la demi. Il y a surtout le match sur Holger Rune où Sinner était complètement en train de trembler à chaque changement de côté. Si Holger Rune, je sais pas, il a complètement vrillé sur le plan de sa tactique, il s'est mis à faire n'importe quoi. Déjà, Sinner s'en sort complètement de raccro sur ce match. Il faut pas oublier quand même que Zverev, depuis la fin de l'année 2024, il s'entraînait après chacun de ses matchs à Bercy pour préparer déjà 2025. J'ai une anecdote que j'aimerais rappeler pour tous les jeunes qui nous écoutent, qui veulent faire du tennis professionnel. On est à Shanghai, Bublik est un joueur kazakh et Zverev rentre quasiment en même temps à Monaco parce qu'ils habitent au même endroit. Bublik reprend l'entraînement samedi après-midi alors qu'ils ont atterri tous les deux jeudi matin à Nice. Il croise Zverev au Country Club à Monte Carlo. Il lui dit bah, ça va, ton premier entraînement se passe bien. Et Zverev lui dit quel premier entraînement, c'est mon sixième. Jeudi matin j'ai atterri, je me suis entraîné deux fois. Vendredi je me suis entraîné deux fois. Samedi matin je me suis entraîné. Là c'est le sixième entraînement en trois jours. Donc ce sont des joueurs qui mettent le tennis tout en haut de leurs priorités et qui font absolument tout ce qui est en leur pouvoir et ce qui est possible pour eux pour essayer de remporter ce titre du tournoi du Grand Chelem. Mais je suis désolée, je ne peux pas entendre qu'on réduit une carrière de quelqu'un à simplement au titre du Grand Chelem qu'il a gagné à partir du moment où il est dans l'ère la plus difficile du tennis masculin pour essayer de remporter quelque chose. C'est un joueur qui est techniquement est exceptionnel, qui physiquement fait tout ce qu'il peut. La raison pour laquelle il a effectivement été chercher Jess Green, qui est celui qui a formé Andy Murray et qui l'a amené à remporter ce titre du Grand Chelem pour essayer d'aller le faire, c'est quelqu'un qui, sur le terme d'éthique de travail sur
mais Marion, on s'en fout de l'éthique de travail, on veut l'excitation, on parle d'excitation. L'éthique de travail, ça n'a aucun rapport avec l'excitation. Parce qu'à un moment, c'est bien, il travaille beaucoup, il est préparé, et j'ai vu ses déclarations en plus. Ses déclarations, c'est je suis prêt, après Roland Garros, j'ai compris qu'il fallait que je me retravaille physiquement, etc. On a tous vu ça. Mais ça n'empêche pas que l'excitation, tu ne la crées pas avec du travail. C'est l'envie que tu dégages par rapport aux autres.
C'est grâce au travail que tu vas transférer un palmarès. Mais bien sûr que oui.
Palmarès, là. Oui. En fait, Mario, tu éludes la question. La question,
alors,
c'est de savoir si c'est
excitant. Qu'est-ce qui t'excite chez Djokovic, Nadal ou Federer? Qu'est-ce qui t'excite chez Nadal, Djokovic et Federer?
C'est pas le palmarès. Moi, ce qui m'excitait à l'époque, mais encore une fois, c'est cette nostalgie, c'est le fait de voir ces grands joueurs jouer ensemble, l'historique qu'ils pouvaient avoir.
Mais parce que c'est leur palmarès.
Oui, parce qu'ils étaient allés souvent contre l'autre. Là, c'est la première fois que les deux s'affrontent en finale. Tu peux pas te dire que le storytelling a commencé. Il commencera peut-être après ce match. Peut-être qu'après, il y a une rivalité qui va se créer encore plus. Et qu'à partir de là, on pourra dire que c'est excitant. Sur la première, pour moi, c'est pas excitant.
Ok, Pascal.
Mais c'est excitant parce que c'est deux meilleurs joueurs du tableau actuellement.
Non, mais en fait, ça c'est.
Parce que sinon, en fait, tu prends toujours que les trois anciens, tu les fais jouer quand l'un contre l'autre.
C'est incontestable que c'est les deux meilleurs joueurs du moment, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, voilà, moi, je suis pas excité. Ça me fait pas me lever, ça me fait pas me trépigner d'impatience de voir ce match-là. Alors certes.
Donc en fait,
parce
vous respectez pas le niveau qui est dévoilé.
Ça n'a aucun rapport avec
non, je te l'ai dit tout à l'heure, Mario.
Ça n'a rien à voir.
Mais bien sûr que oui. Si on veut faire un grand chelem sur un tapis, vous dites, mais en dessous d'un grand chelem,
mais Marion, c'est pas parce que tu te dévoues pour ton sport que forcément tu gagnes. J'en suis l'exemple frappant. Ça fait depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans que je me dévoue pour mon sport et pour autant, au niveau professionnel, j'ai jamais rien gagné.
C'est la seule chose que tu peux faire. Okay. C'est la seule chose que tu peux faire, c'est essayer
mais,
au moins.
Cela dit, oui, c'était la meilleure voie pour réussir. Ça, j'en conviens. Mais pour autant, là, on est en train de parler d'excitation, on est en train de parler d'événements qui te transportent. Or, celui-ci ne me transporte pas. Et je te le répète encore une fois, quand je vois Djoko jouer, ben, son charisme, le fait qu'il soit controversé, eh bien, ça me donne envie d'être partisan de Djokovic parce que j'ai l'impression que le monde entier est contre lui. Quand je voyais Federer jouer, je suis désolé, c'était ce charisme qu'il dégageait, cette politesse, il incarne Carnel tennis à lui-même et Nadal, cette résilience incroyable. Eh bien, je ne le retrouve pas chez Zverev, malgré le fait qu'il s'entraîne beaucoup, malgré le fait qu'en 2024, il a bossé comme un fou, il a gagné des tournois, mais à 27 ans, pour moi, c'est pas le joueur d'exception parce qu'il a toujours pas gagné de titre du Grand Chelem. Je le respecte pour autant.
Très bien, je voudrais faire évoluer le débat parce que Pascal, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je reviens à Marion.
Si ces joueurs-là n'avaient rien gagné, vous les regarderiez même pas. Et on le sait tous.
Donc, c'est possible, mais c'est pas le cas en fait. Avec Messi, Marion, c'est trop compliqué.
C'est
trop simple.
C'est super parce que comme c'est des joueurs qui gagnent tout, alors ça me donne envie de regarder.
Oui.
C'est vraiment les Ténix.
Mais non, Marion,
Marion,
ça tu peux pas parce que c'est pas à chaque fois qu'on te contredit sur des arguments qu'on est des Ténix. Ou c'est pas parce qu'on n'est pas des experts, évidemment. T'as été une grande championne. Sarah a été sportive professionnelle. Sarah a évolué au plus haut niveau. Bon, bah, vous deux, forcément, vous avez un regard différent.
On parle pas de technique là, JC. On parle d'excitation, tout le monde peut en avoir en fait.
Je voudrais faire évoluer le débat. Il y a Julien qui nous appelle, parce que ça fait beaucoup réagir au standard, qui nous appelle au 32-16. Je vais le prendre dans quelques instants. Mais juste, Sarah, je voudrais t'entendre sur un des arguments qu'a pu donner Pascal, et c'est pas une obsession de ma part. Forcément, on en a beaucoup parlé dans cette émission de cette affaire avec Yannick Sinner. Est-ce que, avec cette finale, est-ce qu'on peut profiter pleinement du joueur? Ou est-ce que cette ombre autour de cette histoire, ça empêche de rentrer pleinement dans ce personnage et dans ce joueur de tennis forcément fantastique.
Ça empêche, je sais pas, ça peut aiguiser la curiosité, mais effectivement, tant que le jugement ne sera pas donné définitivement, il y aura toujours ce petit Roland qui traîne en disant, mais est-ce qu'il est tout à fait honnête sur ce qu'il nous a raconté? En fait, pour construire une histoire, il faut un début. Et un début, il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que quand moi je réponds oui, c'est parce que
Que t'anticipes ?
Non.
Parce qu'il ne s'est rien passé encore pour l'instant.
Exactement. Mais parce que je vais aller voir, parce que je sais que ces deux grands joueurs-là vont peut-être écrire l'histoire du tennis, vont peut-être remplacer cette génération qui
peut-être
nous a bercé.
Je suis d'accord avec toi, peut-être.
Je vais être là le jour où l'histoire va s'écrire. Et je pense qu'aujourd'hui, l'histoire est en train de s'écrire. Et c'est en ça. Et j'ai pas besoin d'être spécialiste d'un sport. À partir du moment où je suis le sport en général et qu'on me raconte des histoires et qu'on me dit que j'ai deux énormes champions, j'ai envie d'être au début de l'histoire. Parce que là, vous parlez aux âges où on a, évidemment, on les a vus, les Nadal, les Federer, les Djokovic, mais il y en a qui les ont pas vus, ces matchs-là, qui vont être bercés par ces duels-là, qui vont écrire leur passion du tennis parce qu'ils vont suivre.
Alors, ils vont être bercés par ces duels s'ils existent, parce que pour l'instant, c'est la première fois qu'ils s'apprennent. Donc, tu ne peux pas présumer.
C'est la première fois qu'ils s'apprennent à un niveau-là. Cet enjeu-là.
Mais évidemment,
il y a déjà un palmarès et une base qui s'est construite.
Pendant les phases finales et pendant la finale, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas comparer.
On est d'accord.
Je veux dire, ces deux joueurs, ce n'est pas la première fois qu'ils s'affrontent dans. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'ils vont à ces altitudes-là dans une finale de Grand Chelem.
Non, mais l'un contre l'autre, si.
Oui,
donc le storytelling et l'excitation vient de ça, justement, de cette dualité.
Pas uniquement. Et je poserai ma question après, parce que Zverev, qui perd deux finales en 5-7, forcément, moi, j'ai envie de voir comment il va réagir sur cette finale. On en parle dans quelques instants, mais il y a Julien qui veut réagir au débat au 32-16. Salut Julien.
Salut Jean-Christophe, salut les GG.
Ça va Julien, j'espère que tu as du gaz, mon Julien, parce que il faut s'imposer hein, dans l'émission. Vas-y, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que tu es aussi excité qu'à la grande époque?
Ouais, franchement, je suis aussi excité qu'à la grande époque. Alors si c'est pas autant, c'est vraiment très 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 proche. Je vous trouve très très exigeant. On parle quand même du numéro 1 mondial face au numéro 2 mondial. Les deux ont surclassé tous leurs adversaires. En plus, il y a quand même de l'excitation parce que Zverev il met 4-2 dans les confrontations directes. Donc on peut se dire que l'histoire peut tourner là dans quelques minutes. Et puis si on regarde la finale avec le prisme un peu de l'allemand, on se dit allez, faut regarder quoi. C'est peut-être son heure. On a tous en tête l'image quand il est en fauteuil roulant sur la terre battue de Roland. Depuis un an et demi, il revient. Mois après mois, il est meilleur. Ouais, on se dit que allez,
ça peut être son premier grand chelem.
Voilà, c'est et puis surtout, rappelez-vous, les finales de l'Open d'Australie, bien souvent, elles sont historiques. On se rappelle, je crois que c'est en 2017, un Federer qui bat Nadal 3-2 l'année dernière, un joueur qui mène 2-0 qui se fait retourner 3-2. Je crois qu'en 2012,
même Nadal contre Medvedev aussi.
Nadal Medvedev, exactement, Marion. Il y a également, en 2012, je crois, la finale entre Djokovic et Nadal qui dure plus de 5-6 heures.
Ah, c'était excitant ça, Djokovic Nadal, c'était sympa.
Ouais,
il remet une pièce dans la machine.
Il faut laisser au triptyque Alcaraz, Sinner et Zverev maintenant le temps de faire leur histoire aussi. Et voilà, on n'a pas 20 grands chelems comme ça en se levant le matin. Donc, laissons l'histoire se faire. Et franchement, si on n'est pas excité par ce match, qu'est-ce qu'il faut?
Bravo, Julien.
Eric Salio, les deux joueurs vont rentrer sur le court.
C'est parti, Sacha Zverev vient d'entrer sur le court et à l'instant même, c'est Yannick Sinner qui pénètre dans la Rod Laver Arena. Mais arrêtez, je trouve très négatif. Il y a quatre finales de Grand Chelem de l'année, on peut quand même les savourer, zut.
Merci. C'est pas vrai, Eric. Ça.
Non mais j'ai l'impression qu'on n'est pas compris du tout. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont complètement On est juste en train d'expliquer qu'on est un peu moins. Moi j'ai répondu oui. Moi j'ai répondu oui en plus.
Oui.
Non mais je peux comprendre Fred. C'est vrai que Zverev sur un court, il dégage pas grand chose. C'est une sorte de robot, mais bon, c'est parfait techniquement ce qu'il fait. Mais bon, il va pas déclencher la folie dans le stade. C'est un mec qui travaille ses adversaires. Il mise beaucoup plus sur le physique qu'avant, et c'est pour ça que oui, c'est pas Federer, c'est pas Nadal. Il y a moins de flamme qui se dégage du jeu.
Mais Eric, c'est juste la question. Est-ce que c'est la même chose? Et non, c'est pas la même chose. C'est Robocop qui joue là.
Les amis, je m'adresse aux deux tenniswomen.
Mais en fait, vous êtes que dans le jugement. C'est incroyable.
Vous avez 30 secondes, Marion. Écoute-moi. Vous avez 30 secondes, toutes les deux, juste pour nous dire s'il existe des joueurs de finale. Parce que là, on se pose la question. Parce qu'il y en a un qui a joué deux finales. Sinner, il a gagné les deux.
Bien sûr, il y a des joueurs de finale.
Oui, il y a des joueurs de finale. Comment ça se traduit ça, Marion?
Bah, c'est la capacité, quand t'es vraiment devant la pression ultime, à te surpasser et à faire le vide autour de toi et à rester concentré sur ce que t'as à faire. Il y a des joueurs qui sont plus capables de le faire que d'autres, bien évidemment. Des joueurs qui se font rattraper par les émotions et d'autres qui sont capables de les chercher. Mais la beauté de ce sport, c'est que tu peux échouer et en restant avec la conviction que tu vas y arriver, ça a été le cas de Madison Keys. Tu peux être capable aussi d'aller chercher à la fin, même à la fin de ta carrière éventuellement. Et moi, je suis persuadée que ça va être effectivement le joueur de Zverev et que tu vas aller la chercher aujourd'hui.
Okay.
Pour toi,
ce sera Zverev, Sarah, des joueurs de finale.
Bien sûr, et Sinner depuis 15 mois a prouvé qu'il était un joueur de finale. Il a une manière de jouer. Il a une manière de jouer lorsqu'il est mené ou quand il y a des points chauds. Et là, ce sont des statistiques qui ont été faites sur le jeu de Sinner. C'est un mec qui a particulièrement travaillé une tactique pour jouer les points importants et les points chauds. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'en 15 mois, il a un palmarès. Enfin, il a une trajectoire qui est quasiment sans faute. Après, aujourd'hui, il a un Zverev qui a énormément progressé au service. Et c'est en ça. Mais ça, je comprends, hein, Fred, Pascal. Ça.
Et côté coup droit aussi.
Et ça, c'est à qui de nous l'expliquer? C'est à nous, Marion, Eric, à nous de vous l'expliquer pour vous donner le sel du match et vous donner envie de le suivre parce qu'on va vous donner des enjeux qui va vous rendre ce match excitant. Et au fur et à mesure des années, on va se lever pour les voir. Mais c'est à nous de faire le travail.
Dans certaines années, non, on sera là.
Jean-Christophe, je crains ne pas comprendre. Tu m'as demandé de me lever ce matin pour remplacer Christophe et tu me demandes de feindre l'excitation. C'est ça. Il faut que, donc, en fait, je simule. Donc c'est parti, nous simulons.
Voilà.
Je suis excité. Vite que ça démarre.
On est dimanche matin, il est 9h41 et je vous propose de simuler.
Il y a aussi Grognon que Chris, c'est bon là.
On a fait lever Pascal pour regarder cette pauvre finale de l'Open d'Australie.
Moi je propose un truc, c'est qu'à partir de lundi, on met Jean-Christophe à l'entraînement sur un terrain de tennis avec les charges qu'on s'est mises avec Sarah pendant des années.
Mais ça veut rien dire. Chaque fois qu'on fait un débat réduire les autres en disant mais vous avez jamais fait de sport donc vous pouvez pas en parler. Nous on parle de sensations de sensations et de sentiments. À un moment donné, tous les amateurs de sport peuvent parler de leurs sensations.
L'auditeur t'a très bien dit, les gens sont excités.
On reprend pas le débat, on a bien compris les copains. Il est 9h42, on va suivre cette finale avec Eric Salio tout au long de la matinée en direct de Melbourne. Merci Julien d'avoir composé le 32.